Nous avons confiance en toi et en ton nom. Nous pouvons tous vaincre. Merci, tu as détruit l'ennemi et la puissance de la mort. Tu peux tout vaincre. Amen. On peut avoir quelques prières. Nous te donnons cette réunion. Nous prions que ce matin, tu puisses nous parler. Seigneur, dans ces jours, nous chérissons vraiment ta parole. Te demandons que tu nous parles. Parle à tout ton peuple et à toutes tes églises à Sion. Seigneur, nous désirons tous aller de l'avant et vers le haut. Tu as mis ta parole en nous. Tu nous as ouvert les cieux pour nous parler d'une manière divine. Parle-nous, Seigneur, en ton nom. Nous venons à toi pour entendre comment tu veux parler à ton Église. Ce n'est seulement dans ton nom que nous pouvons vaincre. Oui, Seigneur, nous chérissons ta parole. Nous te prions de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation. Ouvre-nous ta parole, que nous recevions vraiment ta parole. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Sentez-vous libre de prier. Nous prions de tout notre cœur. Seigneur, purifie-nous et sanctifie-nous. Accorde-nous des oreilles pour entendre ta parole. Nous voulons recevoir ta parole avec humilité. Renouvelle l'esprit de notre compréhension pour vraiment saisir ta parole. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Éclaire les yeux de notre compréhension. Parle-nous par ton esprit de puissance, par une parole puissante. Merci pour ce temps de conférence. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole dans ce temps. Parle-nous directement dans nos cœurs. Nous voulons être de ceux qui rejoignent cette nuit de témoins, qui marchons par la foi. Perfectionne-nous et enseigne-nous à la fin de cet âge. Amen, merci Seigneur. Parce que tu nous sauves parfaitement. Tournons nos cœurs vers toi. Seigneur Jésus, amen. En ton nom, nous pouvons tous vaincre. Ce matin, Seigneur, nous te donnons nos cœurs. Tu nous sauves de toute œuvre morte. Ta parole est puissante pour transformer notre âme. Hébreux 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Seigneur, nous voulons mélanger la parole à la foi pour qu'elle porte du fruit en chacun de nous. Nous prions pour des prophètes. Accorde-nous un esprit simple et pur. Nous voulons entrer dans ce repos. Nous prions que ce matin, tu nous accordes une oreille pour entendre ce que tu dis aux églises, pour entendre ta voix, pour entendre ta parole de salut que tu nous adresses. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous entendons ta voix. Nous prions que nous n'endurcissions pas notre cœur. Est-ce que vous entendez? En français, vous entendez aussi la traduction. C'est un petit peu fort en anglais. L'anglais est un petit peu trop fort. Sanctifie-nous encore une fois. Nous prions que tu bénisses cette parole et que tu nous parles. Montre-nous quel est ton fardeau aujourd'hui. Fortifie notre homme intérieur pour que nous ayons une telle foi dont Hébreux 11 nous parle. Seigneur, nous te confions cette réunion. Est-ce que le son est bon? Il redemande. On peut revenir au chapitre 11 d'Hébreux. Combien de temps dure la réunion? La première réunion dure une heure. Ensuite, il y aura une pause. Une pause de 10 minutes et ensuite, on continuera. Donc, là, on en a pour une heure de réunion. Commençons. D'abord, par la fin du chapitre 10. Je crois que c'est bon de revenir et de lire cela. Peut-être je vous le lis, puis vous suivez simplement. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Louez le Seigneur pour la persévérance. Endurance en anglais. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, il n'y a pas que l'endurance, mais il y a aussi le fait de faire la volonté de Dieu et de la finir. Vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. C'est un peu de temps, c'est pas beaucoup de temps, c'est juste un peu de temps. J'aime beaucoup cette promesse, il ne tardera pas. Et juste un peu de temps. Donc endurez juste un petit peu plus. Et après, il nous dit comment aller de l'avant. et mon juste vivra par la foi. Maintenant, mon juste vivra par la foi, dit en anglais. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Mais de ceux qui croient, en anglais. Est-ce que vous croyez?
Amen.
Nous avons besoin d'être ceux qui croient pour sauver leur âme. Combien c'est merveilleux, ce chemin de la foi. Au tout début du temps de la Réformation, quelle a été la première chose que Martin Luther a découverte à ce moment-là? La justification par la foi. On peut vraiment voir et comprendre combien c'était important. Au début, la foi, c'était juste croire. Au début, c'est juste de croire. Et à part de juste croire, je crois que beaucoup d'entre nous, chrétiens, n'avons pas beaucoup d'autres définitions de la foi. C'est un très bon début, avec un début simple. Il n'y a pas de réformation. Mais cette foi doit croître. Et ça, malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Parce que, pour diverses raisons, on a déjà du mal à simplement croire. On doit croire qu'on n'a rien besoin de faire, que c'est simplement un don de Dieu, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et que Dieu existe. Est-ce que tu dois faire quelque chose? Non, tu n'as rien à faire. C'est gratuit. On n'a pas besoin de payer, on n'a rien besoin de faire. C'est magnifique, n'est-ce pas, Elisabeth? N'est-ce pas, Sarah? C'est bon? Quand tu es un enfant. Les enfants reçoivent tout gratuitement. Est-ce que j'ai pas raison? Tout est gratuit pour les enfants. Les pauvres parents qui travaillent si dur. Et les enfants, ils font que recevoir et croire. Est-ce que tu ne crois pas en ton papa? Bien sûr, tu crois. Tout est gratuit. Mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avancer. Bien sûr, c'est un moyen de la foi, mais cette foi, elle doit croître. C'est pour ça qu'on a le chapitre 12. De Hébreu. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que Christ est la source, le début de notre foi, mais il est aussi celui qui la perfectionne. L'auteur et le perfectionneur de notre foi. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu ne restes pas juste au jardin d'enfants. J'aime le jardin d'enfants. C'est... J'ai presque oublié comment c'était. Mais Noémie, tu peux me rappeler ce que tu fais au jardin d'enfants. Tu joues. Tu apprécies. Tu chantes. Je peux à peine me souvenir comment c'était au jardin d'enfants. Ensuite, tu arrives dans les premières années d'école. Ensuite, tu continues avec des études. le lycée, le gymnase. Tu continues. C'est toujours l'éducation, mais c'est une éducation plus élevée. Ensuite, tu vas à l'école secondaire. Après, tu vas au lycée, au gymnase. Et puis finalement, tu vas... Ensuite, tu vas à l'université et tu en arrives à devenir professeur. Tu fais un PhD. Tu as un master. Tu pourrais t'arrêter au master. C'est déjà pas mal. Mais il y a toujours plus. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous ne devrions pas nous arrêter. Nous devrions continuer et endurer. Tant que nous persévérons et que nous endurons, notre vie devient de plus en plus riche. Et si on vient au chapitre 11, c'est une magnifique définition. On a besoin d'apprécier cette définition. On ne la voit pas dans un dictionnaire. Parce que ce n'est pas ce que le monde comprend concernant la foi. C'est la substantification c'est pas une mauvaise traduction, c'est juste on a besoin de substantifier. Ça t'est pas juste donné, tu dois la gagner, cette substance, tu dois payer quelque chose. Apporter du pain. Tu as apporté du pain il y a quelques jours. Est-ce que c'était gratuit? Est-ce que c'était peu cher? Un peu, parce que c'était du pain. Mais, mais tu as dû payer. Et à cette place, ce n'est pas peu cher. On a besoin de la substance. Si on fait juste rien, et juste on croit et c'est tout, on a besoin de désirer. Seigneur, je veux la substance de ce dont tu parles. Je veux la réalité. Je veux la recevoir. Si on n'a pas ce désir, si tu crois, on croit aux vrais enseignements dans la parole, mais ensuite, que se passe-t-il? On a tellement entendu toutes ces dernières années, on a entendu beaucoup de bons enseignements. C'est correct? C'est croyable? On le croit, mais ensuite, que se passe-t-il après qu'on ait cru? Que se passe-t-il? Rien. On chante comme d'habitude. Mais as-tu saisi ce que tu as entendu? As-tu un désir d'avoir la substance de ce que tu as entendu? Ça dépend de toi. La substantification dépend de toi. As-tu l'évidence que tu l'as reçu? Il dit ici que la foi est la substantification des choses qu'on espère. C'est pas juste croire. À ce point, dans Hébreux 11, le Seigneur a besoin que l'on ait de la foi. C'est-à-dire de désirer la substance. Et ça nécessite vraiment notre collaboration. On ne peut pas juste dire « je crois ». regarder ce qui s'est passé dans notre histoire, dans notre passé. Le passé est une très bonne évidence. L'histoire nous en dit beaucoup. On a entendu beaucoup de choses concernant la Bible. Combien de ces choses et de la vérité que nous avons entendue est arrivée en substance dans nos vies. Très souvent, l'Esprit veut faire quelque chose en nous et on ne lui répond pas maintenant, Seigneur. Mais quand ? Demain. Mais demain ne vient jamais. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Dans Hébreu, dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, croyez simplement. Qu'est-ce qu'il dit ? N'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que ça signifie d'endurcir nos cœurs ? Ça ne veut pas dire rien faire et juste attendre. Non, tu crois ? Tu dis au Seigneur, oui, je veux collaborer avec toi. C'est un principe très important dans notre vie chrétienne, vie humaine. Quand j'étais jeune et que j'avais ton âge environ, je voulais un vélo. Mon papa m'avait promis. Je te promets, je vais t'acheter un vélo. Oh super, mais... ça dépend de tes résultats à l'école. Oups. Oula. C'était une promesse. Avec une condition. Mon père voulait voir si je le voulais vraiment. Si je voulais vraiment. À ce moment-là, je devais étudier et travailler à l'école. J'ai finalement obtenu mon vélo. J'ai eu la substance de cette promesse. Et aujourd'hui, en particulier dans au stade de vie chrétienne où nous sommes, ne croyons pas que le Seigneur va juste nous le donner comme ça. Il veut nous le donner, mais il veut aussi voir quel est notre maturité veut nous perfectionner. Bien sûr, il nous a parlé. Si on écoute sa voix, alors on doit réagir. On doit agir et réagir. Imagine que Dieu ait parlé à Abraham en lui disant « Je vais te donner le bon pays. » Abraham dit « Ah, merci. Je crois. Est-ce que tu crois que ça suffit ?» Il a dû prendre l'initiative de quitter le pays de ses pères, la Chaldée, ce pays plein d'idoles. Et d'être même prêt à désirer quitter la maison de son père pour bouger. Notre réaction, notre foi, doit être une réaction vivante de notre part. Cette foi nous a été donnée par Dieu, mais on doit l'employer. Si on n'est pas actif, j'ai quelques outils dans mon garage, mais ils sont juste suspendus là. Tellement d'outils dans mon garage sont juste suspendus là comme une décoration. Pour pas que mon garage soit en chenille, c'est en bazar, c'est juste suspendu là, c'est rangé. Mais si je les emploie pas. Dieu nous a donné une foi très précieuse. Je ne sais même pas comment décrire la substance de cette foi, parce que c'est la foi de Dieu. Nous devons participer, être actifs. Si nous ne sommes pas actifs, que nous ne l'obtenons pas, nous ne l'obtiendrons pas. Nous devons mélanger la foi à la parole pour avoir la vie, la réalité. Qui va mélanger la foi à la parole? Un ange? Est-ce que tu crois qu'un ange va le faire pour toi? Est-ce que tu crois que pendant que tu lis, Dieu va envoyer Gabriel pour qu'il mélange la foi à la parole? Est-ce qu'il va nous donner une machine céleste qui mélange la foi à la parole? La foi est la substantification. C'est pour ça que nous avons traduit pas juste la substance, mais substantification, d'obtenir cette substance. Mais si tu n'as aucun désir de substantifier cela, alors tu as juste de l'espérance. Tu as juste une espérance. Mais tu n'obtiens jamais. Mais le fait de substantifier, c'est vraiment actif. La substance, c'est que tu l'as déjà. Mais de substantifier signifie vraiment que tu dois participer pour l'obtenir. Surtout quand nous sommes adultes dans notre foi. C'est pas très étonnant, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le livre de Jacques, le frère de Jésus. Sans la foi, sans les œuvres, est-ce que tu crois que ça suffit? C'est bon, tu n'as rien besoin de faire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mort dans Jacques 2. Tu veux dire que la foi que Dieu nous a donnée est morte? Personne ne croit cela. La foi sans les œuvres est morte. Il nous dit dans la parole que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, que c'est le don de Dieu. Donc qui a raison? Les deux ont raison. Parce que pour être sauvé, tu n'as rien besoin de faire, parce que sinon ça veut dire que tu n'as plus besoin du sauveur, si tu peux le faire par toi-même, par tes œuvres. Personne n'est justifié par les œuvres, parce que nous sommes déchus. La foi a besoin d'être amenée en substance. La foi sans résultat est vaine. Mais plus on grandit dans la vie, plus on a besoin d'avoir la substance. On a besoin de payer un certain prix. L'huile initiale t'est donnée gratuitement. Comme quand tu achètes une voiture, le premier plein t'est offert. Mais ne crois pas que ça va être gratuit pour toujours. Ça ne va pas être gratuit pour toujours. Mais la première fois, c'est gratuit, sinon tu pourrais même pas ramener ta voiture à la maison. Ensuite, tu dois continuer de la remplir. Comment? En collaborant, en payant un prix. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'Église, à la Odyssée? Viens et je te donnerai l'argent, l'or. Il dit non, tu dois venir acheter. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Qu'en est-il des 10 vierges? leur a dit au revoir. C'était Apocalypse 3, 18. Il leur a dit au revoir le temps qu'elles aillent acheter. Au revoir. Leur a dit d'acheter. Elles ont dû aller acheter de l'huile. On doit travailler dur pour gagner plus de Christ. Pas que j'ai déjà atteint, mais je cours, je poursuis. Il connaissait très bien l'écriture. Il avait été instruit par Gamaliel. Il avait eu un bon enseignant. Mais il ne voulait pas gagner de la doctrine, il voulait gagner Christ. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il croit. Est-ce que c'est ce qu'il a dit, Sophia? Non? Qu'est-ce qu'il a dit? Renie ton moi. Juste par la foi, crois. Et si tu crois, tu suivras Dieu. Est-ce que c'est juste? Crois seulement? Non. On doit renier notre moi. Prendre notre croix et suivre. Il dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Est-ce que tu crois que c'est facile? Même ton chien ne te suit pas. Et nous ne suivons pas notre maître. Il dit oui, nous disons non. On dit pas maintenant. On dit tous plus tard. On aime toujours, pardon, dire plus tard. Mais le Seigneur veut qu'on le fasse maintenant. Parce que de lui dire plus tard montre qu'on n'a aucun désir en vérité de le faire. Ok, je le ferai, mais pas maintenant. On n'amène pas en substance ce que Dieu veut. Maintenant. J'aime ces mots magnifiques. Maintenant, la foi est la substantification des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi, c'est de voir des choses que les autres ne voient pas. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que dit Paul. Par la foi, nous voyons les choses que les gens ne peuvent pas voir. Comme dans Jean 17. Le monde ne va pas voir le Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais nous, nous le connaissons. Est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais on doit le voir avec les yeux de notre cœur. Par la foi, nous voyons les évidences. Et il y a beaucoup d'évidences. Regardez au chapitre 11. Il y a tous ces magnifiques frères qui sont passés au travers de tellement. C'est plein d'évidences. C'est pas juste croire et rien ne se passe. Non, il parle de tous les prophètes, de tous les martyrs. Ils ont eu l'évidence, ils ont vu l'évidence. Mais le peuple autour d'eux ne les a pas vus. Même que les évidences étaient vraiment solides. Dis-moi, Stéphane, dans tous les exemples de ce chapitre, est-ce que tu vois les évidences ? Avant, c'était 2 Corinthiens 5, 7 qu'il a mentionné. Il y a des preuves même archéologiques de toutes ces choses. Je ne vais pas juste m'asseoir là et dire « Ok, Seigneur, je crois, mais j'ai aucune évidence. » On a des évidences. « Ok, je crois que mon père va me donner le vélo, mais moi je vais juste m'asseoir là en attendant qu'il me donne le vélo. » Je veux des évidences de la part de Dieu. Qu'il puisse travailler dans ma vie. Je substantifie chaque mot qu'il me dit dans la Bible. Dans les messages, quand Dieu te parle, que fais-tu? Tu rentres juste chez toi, tu vas dormir et c'est tout. Mais tu dis même pas au Seigneur, « Seigneur, je veux expérimenter ça, je veux... » L'évidence, je suis volontaire pour expérimenter ce que tu m'as dit, ce que j'ai lu dans la parole, et de le mélanger à la foi. J'ai dit aux saints, lors de la première réunion en Allemagne, je leur ai demandé qu'est-ce que ça signifie de... mélanger. Toi, tu es boulanger, pâtissier. Comment fais-tu quand tu mélanges la pâte? Tu as la pâte. Et si tu n'as pas la pâte, de machine pour mélanger la pâte, eh ben, tu le fais à la main. Combien de temps ça te prend jusqu'à ce que tout soit mélangé? Tu ne t'arrêtes pas. Sinon, ça ne sortira pas bien du four. Le résultat ne sera pas bon. Ta maman t'a enseigné, n'est-ce pas? Tu dois employer un peu de force et de patience pour le faire. Et de le faire jusqu'à ce que ce soit tout mélangé. Là, on a Emery aussi qui fait beaucoup de pâtisserie. Le fait. Jusqu'à ce que ce soit prêt. Mélanger avec la foi. Jusqu'à ce qu'il y ait la réalité. Amen. Mélanger avec la foi. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que Sarah a juste cru qu'elle allait avoir un fils? Elle en a eu un. Il y a eu une évidence. Vraiment. Chaque situation ici, qui est mentionnée au chapitre 11, sont des saints et des frères dans l'Ancien Testament qui ont expérimenté des évidences solides, des promesses de Dieu. Chacun d'entre eux, chaque cas n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas vide, c'est vraiment vivant. Cette foi. Et à la fin de cet âge, Nous avons besoin du perfectionnement de cette foi, surtout en ce temps de la fin. Tout a besoin d'être perfectionné. Même Mercedes a besoin de perfection, non? N'est-ce pas, Rebecca? Peux-tu imaginer? Ah, pardon, Mercedes, c'est le nom de leur chien. Même lui, il a besoin de du perfectionnement. Et même en 6 mois, il a tellement appris à mieux se comporter. J'aime voir cela. Il est plus éduqué. Une demi-année après, reviens. On a tous besoin de réaliser cela. Parce que beaucoup des chrétiens ne croient pas cela. Ils croient que c'est bon, mes péchés sont pardonnés. C'est bon, je vais aller aux cieux. Mais il n'y a aucun sens de perfectionnement spirituel. Soyez parfait comme le Père céleste est parfait. Père dit parce que je suis saint. Soyez saint parce que je suis saint. Parfaitement sauvé. Dans Hébreux 5 et 6 particulièrement, à la fin du chapitre 5 et le début du chapitre 6, il nous montre combien il veut qu'on soit perfectionné. Tout laisser, ça ne veut pas dire que c'était mauvais, mais c'est dire que en allant de l'avant, tu oublies ce qui est derrière. Quand j'étais un enfant, je jouais avec des choses enfantines. Mais quand je suis devenue un homme, j'ai laissé de côté les jouets pour enfants. Ou bien est-ce que tu joues toujours avec les jouets pour enfants? Mais on arrive en maturité. C'est un principe très simple. Et la foi est pareille. Venons au point C. Rapidement, en 5 minutes. On est au point 1 du résumé. 1C. Nous avons tous reçu une foi du même prix. Dans 2 Pierre 1, verset 1. Première fois que j'ai réalisé ce que signifiait ce verset. J'ai réalisé que c'est pas notre foi, mais c'est la foi de Dieu. Dieu nous a donné cette foi. Quand on est né de nouveau, quand le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, qu'il nous a donné ce magnifique don de la foi, c'est une caractéristique vraiment magnifique de Dieu. Je ne peux même pas expliquer, vous l'expliquer. Ça appartient à Dieu. Donc dans Genèse 1, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est apparue, que la pluie arrête, la pluie s'est arrêtée. Peux-tu faire cela? Peux-tu ordonner aux orages? Ils vont s'arrêter en une seconde? Non, tu ne peux pas. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je ne sais même pas ce que c'est cela. Mais c'est là. Et il dit, tu as la foi de Dieu. Quelque chose qui est appelé la foi, pas selon le dictionnaire, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu a créé l'atmosphère par sa parole. Tout a été créé par sa parole. C'est pourquoi il dit là, par la foi nous comprenons que le monde a été créé par lui. l'univers a été formé par la parole de Dieu. Verset 3, Hébreux 11, 3. Qu'est-ce qui est le plus dur à croire? Que l'univers a été créé par Dieu ou par le Big Bang? Et que en 1000 ans, il y a eu une explosion et puis des molécules qui se sont rencontrées. Et là, d'un coup, quelques milliers d'années plus tard, regarde dehors et tu as un magnifique jardin. Et qu'est-ce qui est le plus simple à croire? Que ton arrière-arrière-grand-père est un gorille? Ou que Dieu t'a créé à son image? Qu'est-ce qui est plus raisonnable? Emmanuel. Si vous imaginez que ça, c'est un stylo. Si je te dis qu'il a suffi d'un millier d'années et d'un coup, paf, cet objet qui a été créé. Ah ben oui, pourquoi pas? C'est possible, non? Tu ne crois pas cela? Pourquoi pas? Tu devrais le croire. Moi, je crois ça. Si je te dis que je crois cela, que vas-tu te dire? Que ce grand-père est un fou. Il est hors de sens. Si je te dis, après 100 ans ou 1000 ans, cet objet est bien... a un bon design, il est fini. Non, mais personne ne l'a dessiné, il s'est créé tout seul. Est-ce que tu crois à cela? C'est impossible. Et tu croirais que l'être humain de... que le singe, un beau jour, s'est mis à changer son ADN et puis... Oh, d'un coup, paf, tu es un humain. Tu crois cela? Non. Qu'est-ce qui est plus raisonnable à croire? Genèse 1, que Dieu nous a créés à son image? Laisse-moi te dire, la foi est une chose raisonnable. Si tu n'es pas raisonnable, tu n'auras pas la foi. La foi de Dieu. Elle nécessite un esprit raisonnable. Pour ça qu'il dit, par la foi, nous comprenons. Si tu n'es pas raisonnable, tu vas croire beaucoup de choses. Comment vas-tu comprendre? La foi qui nous a été donnée nécessite une compréhension solide. Je ne crois pas qu'avec une compréhension solide, que sans une compréhension solide, tu vas croire à ça. Tu vas croire à n'importe quoi. Ou alors tu vas croire à la réincarnation. Que si tu as été une bonne personne, et ben après tu te réincarnes en un joli oiseau. Ou si tu étais méchant, en un méchant bulldog. Alors ne tue pas cet oiseau, ça pourrait être ton grand-père. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu crois cela? Non. Mais beaucoup de gens croient cela. Ce n'est pas de la foi, je ne sais pas ce que c'est. De la stupidité. La foi nécessite une compréhension saine, une intelligence renouvelée et saine. soyez renouvelés par le renouvellement, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous avons besoin d'une compréhension saine. Sans cela, on ne peut pas avoir une vraie foi. On ne peut pas amener en substance notre foi. Il dit que le Dieu de ce monde a aveuglé la compréhension de ceux qui croient. Si notre compréhension n'est pas renouvelée, nous n'allons pas être saints, nous n'allons pas avoir une compréhension saine. Tu vas croire alors que tu descends du singe, que tu descends du gorille. Tu as envie de ressembler à un gorille ? Quoi, tu ne veux pas lui ressembler ? Pourtant, c'est ton ancêtre. Ce n'est pas ainsi. Vraiment pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par Dieu. Il a été imaginé, dessiné, planifié, designé par Dieu. Dieu n'aime pas le chaos. Est-ce que tu créerais quelque chose qui est chaotique ? Et tu le laisserais juste être chaotique ? Et après, tu crois que ça serait juste chaotique et puis un beau jour, paf, ça donne un beau résultat, comme là dehors. C'est pas une question de Big Bang ou même Petit Bang, mais c'est... Soyons sains dans notre compréhension. Dieu a tout créé, nous ne devrions pas oublier. Ésaïe 45. Dieu n'a pas créé un monde qui soit chaotique, un tohu-bohu, mais il a créé un lieu qui puisse être habité par l'homme, harmonieux. Chaque fois que je regarde mes mains, je loue Dieu pour un tel créateur. Avec juste deux mains, nous sommes capables de faire tellement de choses. Je crois que le gorille peut les faire. Est-ce qu'un gorille peut dessiner un magnifique dessin ? Est-ce qu'il peut cuisiner ? Aucune de ces choses ne peut. J'apprécie vraiment. Dieu est mes témoins de combien de fois je lui dis tu es un magnifique créateur. Je peux voir, je peux sentir, je peux penser normalement. Je peux faire tellement de choses avec mes mains. Et je suis... Tout ça, c'est coordonné. J'ai toujours dit à Dieu, tu es un créateur merveilleux. Si merveilleux. Tant de choses que tu fais, que tu manges, tant de variations magnifiques. Cette planète est vraiment magnifique. J'aimerais pas vivre sur la Lune, est-ce que toi tu voudrais? Avant il a mentionné 2 Corinthiens 4:4. Est-ce que tu crois vraiment que des choses si magnifiques n'ont pas été dessinées par Dieu ? Le temps est écoulé, on peut s'arrêter. Mais on a besoin de réaliser qu'on a besoin d'une compréhension saine pour mélanger à la foi. Pour mélanger cette foi à la parole de Dieu. par la foi, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur ouvre nos yeux. On prend 10 minutes de pause. Amen.